Okay. C'est bon? J'y vais? Merci.
Ma Seigneur, je veux te prier pour Jacqueline. Merci pour sa présence ce matin. Tu vois qu'elle s'est levée très tôt et qu'elle a fait du chemin jusqu'ici, qu'elle a pris plusieurs trains. Je te prie de venir la rencontrer, qu'elle puisse être en paix, qu'elle puisse sentir que tu es là avec elle, que tu puisses vraiment mettre tes mots dans sa bouche. Et je te prie aussi pour nous, l'Assemblée, chaque personne qui s'est levée ce matin, qu'on puisse recevoir une parole de toi, recevoir quelque chose de précis que tu as prévu pour chacun de nous. Viens nous rencontrer ce matin en ton nom. Amen.
Amen. Bien, merci. Vous pouvez y aller. Il est écrit dans Matthieu 12, 36-37. Je vous laisse le lancer au bimère. Ah ben, vas-y. Je l'avais surélevé parce que j'ai une grosse tête d'Alsacienne. Voilà, ça ira. Merci. Voilà. Je vous salue. Je vous salue. C'est vrai que j'ai pris le train très tôt ce matin. À 7h15, je suis partie de chez moi. Je viens depuis Basse-Cour, dans le Jura. Mais je suis née dans les Vosges en 1945, dans une famille pauvre. Mais j'aime lire un verset avant de commencer tout message. Ce verset est écrit dans Matthieu 12, 36-37. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront prononcée, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. » Ce que je vais vous dire ce matin, c'est mon vécu et la parole de Dieu, c'est tout. Donc, je suis née en plein hiver. Dès mon deuxième hiver, j'ai commencé à souffrir de bronchite asthmatique, puis d'asthme sévère qui m'a accompagnée toute ma vie. L'alcoolisme de notre papa a fait souffrir toute la famille. Par exemple, le jour de mes 16 ans, alors que j'ai voulu me mettre entre maman et papa, il la tapait, il a voulu me mettre en glais. Je suis tombée à terre, j'avais poussé un râle, et ce jour-là, j'ai vraiment haï mon papa pour la deuxième fois. La première fois, on en parle plus tard. Ma sœur est partie travailler en Suisse. Je n'ai pas pu continuer mes études et aller à l'université comme toutes mes amies. Je suis donc venue en Suisse aussi et j'ai trouvé une place de secrétaire. Et je suis tombée amoureuse du frère de mon chef de bureau, d'un garçon très gentil, Étienne Frézard, qui travaillait dans la même entreprise. Je me suis mariée très jeune, j'avais 19 ans, il en avait 30. Nous avons deux filles, magnifique cadeau de Dieu, et 6 petits-enfants. Nous avons perdu un garçon à la naissance et depuis le jour-là, j'avais 23 ans, j'ai cherché Dieu partout. Je ne le souhaite à personne parce que je l'ai cherché pendant 23 ans. C'est seulement à 46 ans que j'ai découvert Dieu. À ce moment-là, je lisais les psaumes, ça m'apportait du réconfort. Je lisais les proverbes, mais je ne comprenais rien à l'Ancien Testament. Et puis le Nouveau Testament, 2000 ans, ça me paraissait bien loin. Oui, c'était dans le temps, ce n'est pas pour moi. Personne ne m'expliquait la parole de Dieu. Dans la région, on soigne par le secret. La première semaine que j'étais là, je le racontais avant dans le train. Dans le train, j'ai évangélisé deux personnes. Il y en a qui sont reparties avec mon CD. J'évangélise toujours dans le train. Et je le racontais juste avant. C'était une fabrique de boîtes de Montreor. Donc tous les mardis, j'allais au contrôle des métaux pressés avec une petite charrette dans le village avec 3 lingots d'or. Et je les conduisais au contrôle, je les ramenais au bureau, on les emballait. Je repartais avec ma petite charrette dans le village jusqu'à la poste. Et la première semaine, je suis tombée, j'ai glissé dans les escaliers de la poste avec mes lingots. Et les lingots n'ont rien eu, mais moi j'ai eu une entorse. Et quand je suis revenue travailler, on m'a dit « mais il faut faire le secret ». Je n'avais jamais entendu parler de ça. Et j'y suis allée à midi. Et le monsieur qui m'a frictionné la cheville avec du beurre, dans lequel j'avais vu qu'il avait mis du sel, il m'a dit « il y a combien de temps que c'est arrivé, mademoiselle ?» Je dis « il y a 3 heures. »« Dans 3 heures, vous serez guérie. » Effectivement, 3 heures après, j'étais guérie. Plus aucune douleur. Un jour, ma deuxième fille met la main sur la plaque. Elle était toute petite. Je téléphone à une dame du village qui faisait le secret. Ça a passé immédiatement, alors que ma fille hurlait. J'ai pratiqué plusieurs secrets. L'arthrose, je l'ai reçue d'un vieillard, d'un monsieur très âgé à Seigne-Légier. Mon mari avait à un moment licencié. Moi, j'avais arrêté de travailler quand j'ai eu ma première fille. Mais quand il a été licencié, j'ai retrouvé un travail. C'était 2 nuits par semaine à l'hôpital de Seigne-Léger comme aide veilleuse de nuit. Et un soir, j'arrivais en boitant. J'avais très mal à une hanche. J'avais de l'arthrose. Et un monsieur me dit, un des malades, me dit « Qu'est-ce que vous avez, Madame Frézard ?» Je dis « Mais j'ai de l'arthrose. Vous viendrez après la tournée, je vous frictionnerai. Je vous ferai le secret. » Alors, il m'a fait le secret. J'ai couru toute la nuit. Je n'avais plus mal. J'ai amené ma belle-mère, il lui faisait le secret à ses genoux, elle avait de l'arthrose dans les genoux. Et un beau jour, sans que je ne demande rien, il dit à ma belle-mère, « Oh, mais elle a beaucoup de fluide, votre belle-fille, je vais lui donner le secret pour l'arthrose. » C'est ainsi qu'il m'a donné le secret pour que je le lui fasse. Il n'a pas été opéré lui-même, il devait se faire opérer. C'était un monsieur très âgé, mais il était célibataire. C'est la raison pour laquelle il me l'a donné. D'habitude, le secret dans le Jura ou ailleurs se donne de génération en génération. Je rentre à la maison, je rencontre mon beau-frère, je lui dis « Oh, tu te rends compte, j'ai le secret pour l'arthrose, c'est super !» Il me dit « C'est ce vieux monsieur des Breuleux qui te l'a donné ?» Il me dit « Oui, ah, oh, mais il y a longtemps que j'y ai demandé. Ben viens, je vais te donner le secret pour les verrues. » Alors, sans que je demande rien, de nouveau, il me donne le secret pour les verrues. En 2 mois, le secret pour les verrues se fait en vieille lune, avec une couenne de lard. Il faut d'abord frictionner les verrues avec la couenne de lard, puis aller enterrer cette couenne de lard sous tel arbre, la nuit, en vieille lune. Et puis un jour, j'ai lu le secret pour les brûlures dans un livre. Et ce secret pour les brûlures commence par les mots « feu de l'enfer » et il parle du jardin des oliviers. Donc, je parlais au feu de l'enfer, j'invoquais des saints, et pour le secret pour l'arthrose, je parlais à un ange. Dès que j'ai commencé à pratiquer ces secrets, pour l'arthrose, j'avais mal à l'endroit où j'avais soigné. Si j'avais soigné un coude, le lendemain, j'avais mal. Et puis surtout, il y a des jeunes oreilles qui peuvent entendre. J'avais des présences glaciales, des présences qui me terrorisaient la nuit. Mon mari dormait, il ronflait, il n'entendait rien. Il n'était jamais entré là-dedans, lui. Mais ces présences, elles étaient là, et je ne pouvais plus dormir, j'avais peur. J'ai cherché Dieu partout. Je me suis intéressée à la parapsychologie. J'ai oublié une chose. Oui, voilà. La paix dans la maison avait disparu. Je suis tombée dans une grave dépression. J'ignorais les conséquences de mon entrée dans ces voies. Je suis allée voir des cartomanciennes anciennes qui toutes me disaient « Vous divorcerez, vous divorcerez ». Elles ont une malédiction sur notre couple et nous avons divorcé après 20 ans de mariage. Je suis partie des Franches-Montagnes, je suis venue à Delémont. J'ai continué de chercher Dieu. On m'a donné l'adresse d'un gourou hindou. Je ne vais pas m'étaler longtemps sur cette vie, mais quand même, ici sur la Riviera, vous avez aussi des personnes qui sont entrées dans le New Age, dans le yoga. Donc en quelques mots, je vais vous en parler. Donc pendant une année, on a correspondu avec cet hindou, puis je suis allée dans son pays. Il est dit que Satan se déguise en ange de lumière. J'étais dans une pastorale une fois à Moutier, non pas dans une pastorale, dans une collégiale. Et j'écoutais un concert spirituel, et j'étais habillée tout en noir, et tout à coup je me suis vue comme ça. Quitter mon corps, j'étais tout en blanc, et je suis allée dans un endroit, tous des anges de lumière, et ils m'ont fait signe de redescendre. Et j'ai écrit à mon gourou en lui disant ce qui était arrivé. Et il m'a dit, ma petite Jackie, parce qu'il m'écrivait tout en anglais, ne le dis à personne, mais je suis envoyée sur terre au même titre que Jésus. Donc j'ai cru, j'ai eu un aveuglement spirituel. Et pendant des années, je lui envoyais de l'argent, énormément. Il m'envoyait des cassettes, il me dictait à la recherche de la vérité. Et j'écrivais cela, je tapais cela. Heureusement, un neveu, mon neveu Pascal Frézard, qui était un ancien toxicomane qui avait découvert Jésus, priait pour moi dans une grande église, la grande église libre à Neuchâtel. Et ils ont prié pendant 10 mois. Et il me disait, Jacqueline, s'il t'arrive quoi que ce soit, tu cries Jésus. Effectivement, la nuit, j'avais des voiles qui venaient m'étouffer parce que j'étais toujours plus asthmatique. Et ces voiles m'étouffaient et je criais Jésus. Tout partait. Je me disais, tiens, c'est quand... C'est bizarre. Et puis, un jour, j'étais vers mon balcon, j'avais fait du yoga, j'étais en plein là-dedans, et j'ai entendu une voix très grave, « Je te donnerai gloire et honneur !» Et je savais que ce n'était pas la voix de Dieu, et j'ai crié « Jésus, toi disparu !» J'ai quitté mon corps 5 fois. La dernière fois, donc ce n'est pas bénin de faire du yoga. On fait le vide. Qu'est-ce qui n'entre quand on fait le vide? Yoga en anglais veut dire yog, veut dire joug. J'étais sous le joug de la philosophie hindoue. Mon gourou adorait 2 dieux, Shiva, la déesse de la mort, et puis Kali, dieu de la destruction. Et j'étais exactement ce qu'il est écrit dans 2 Timothée 3, 6, 7. Mais ça me décrit. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, on parle de ces faux docteurs, qui captivent de faibles femmes chargées de péché. J'étais divorcée, j'étais libre, j'étais pas sérieuse. Et entraînée par toutes sortes de désirs, des femmes qui cherchent toujours et qui ne sont jamais capables de parvenir à la vérité. Et ils m'envoyaient des cassettes à la recherche de la vérité. Un jour, dans cette confusion spirituelle, c'est le vendredi saint de 1989, j'ai crié « Jésus, est-ce que vous êtes... » Je disais encore « vous » à Jésus. « Est-ce que vous êtes vivant? Est-ce que vous existez ?» comme Pascal me le dit. Je me suis endormie en priant, en faisant cette prière. Et le matin, j'ai vu une colline. Sur cette colline, il y avait une grande croix blanche. J'étais en bas de cette colline et Jésus n'était plus sur la croix. Il était vivant. Il est vivant. Il me tendait les bras. Il est lumineux. Il est extraordinairement plein d'amour. Je suis tombée à genoux et pendant 3 heures, je disais « Jésus, Jésus, Jésus ». J'ai écrit à mon gourou, je lui ai dit que je n'avais plus qu'un maître, Gurudev veut dire maître, sur la terre et au ciel, Jésus. Mais on ne sort pas comme ça des griffes de Satan. Quand il avait reçu ma lettre, c'était un samedi soir, j'ai voulu me suicider. J'ai écrit à mon mari le mal qu'il m'avait fait. Je ne l'avais pas quitté pour un autre homme, je l'avais quitté parce que j'étais malheureuse, il buvait, il était jamais à la maison, etc. J'ai écrit à mon père, j'ai fait plusieurs lettres, puis pour mettre mes affaires en ordre avec ceux qui restaient, en voulant mourir, on fait ça certainement. Et puis tout à coup j'ai crié « Jésus, je ne veux plus vivre ». Je suis tombée à genoux et au moment où j'ai prononcé le nom de Jésus, je me suis vue... Comme si j'étais sous un manteau, comme une présence, un manteau, des bras d'amour qui m'ont couvert. Jésus m'a sauvée du suicide. Le bloc dans lequel j'habitais à Adlémont a été racheté, j'ai dû partir, je suis allée à Neuchâtel. Je suis allée la première fois dans une église évangélique. Quand j'entendais ces louanges, je pleurais. C'était tellement extraordinaire. J'étais invitée à une soirée d'évangélisation au Genevay-sur-Cofrane et je me disais, mais pourquoi le pasteur raconte ma vie? Pourquoi il dit que je suis une pécheresse, qu'on est pécheur? Pourquoi il dit que Jésus est mort à la croix pour nous? Je n'ai jamais entendu ce langage. Je n'avais jamais compris, même en lisant la Bible, pourquoi Jésus était mort. J'avais l'impression qu'il parlait que pour moi. Et à un moment, quand il a dit, qui veut ce soir donner son cœur à Jésus? Mais il y a des années que j'attendais cela. Ce soir-là, le 15 mai 91, j'ai donné mon cœur à Jésus. J'ai découvert la parole de Dieu, la louange. Vous avez bien choisi ton amour, ta puissance. C'est notre verset. Mon mari est à l'hôpital cet été. On chantait ça tous les jours. J'étais cet hiver à l'autre bout du monde. J'étais dans une île où il chantait en créole. Je dis, Seigneur, donne-moi mon cantique, donne-moi. Et tout à coup, le maître de louange, il chante ton amour, ta puissance à 13 000 km d'ici. C'est notre chant. Tu l'as bien choisi. Guidé par le Saint-Esprit. Voilà. J'ai brûlé tous mes livres. On ne sort pas comme ça des griffes de l'ennemi. J'ai dû avoir plusieurs délivrances. Maurice Ray a été parmi ceux qui m'ont délivré. La première fois qu'il m'a vu, il m'a dit « T'as touché à quoi, toi ?» Rien qu'en voyant mon visage, il avait vu que j'avais touché à des choses. Je lui ai dit « Ben, j'ai eu un gourou hindou, on va regarder ça ensemble. » Et quand il m'a délivré, j'étais à genoux, puis à plat ventre, tellement je me sentais une pécheresse. Pierre Truchel aussi a fait partie des... personnes qui m'ont délivré. Et après cela, j'ai découvert la paix. La paix. La paix en Jésus. La paix qui dépasse tout. Oh, on m'a pris pour une illuminée. Pour mon beau-fils, j'étais la belle doche illuminée. Mais illuminée veut dire qui a reçu une source de lumière. Et Jésus est la lumière du monde. J'ai découvert dans la parole ce que disait Dieu sur la philosophie hindoue. Je croyais en la réincarnation. Et il est écrit dans Hébreux 2, 29. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Le fait d'avoir donné mon cœur à Jésus, d'obéir à Dieu, a eu une première conséquence extraordinaire. C'était le 4 décembre 91. J'étais seule dans ma chambre. Je parlais toute la journée, j'avais un travail où je parlais toute la journée. Et j'avais un appareil à la maison, comme ça gros. Je devais pomper de l'oxygène. Et ce soir-là, j'ai fait 6 crises d'asthme. J'ai voulu appeler l'hôpital pour Thalès. Je n'ai pas pu parler. Pour ceux qui connaissent les asthmatiques, c'est terrible. J'ai voulu appeler mes voisins, je n'ai pas pu. Alors je suis tombée au pied de mon lit et j'ai crié, Jésus, je ne veux pas mourir. Ma première fille attend son premier bébé. Je veux connaître ce bébé. Et je suis tombée à genoux. Je me suis endormie par terre, tout habillée. Le lendemain matin, je me réveille. 5 heures du matin. Je pardonnais à mon père qui m'avait fait des choses ignobles quand j'étais enfant. Il y avait au lycée, j'étais 6 ans au lycée Armiremont dans les Vosges, j'avais dans l'interne, une fille dont le papa était en prison pour la même chose. Et ce jour-là, j'ai dit, papa, je te pardonne. Et j'ai pleuré. Et j'ai pleuré pendant 3 heures entières, même plus. Et je disais, Père céleste, je vous demande pardon. Donc il y a eu ce pardon accordé à mon père terrestre, ce pardon demandé à Dieu. Puis j'ai téléphoné à mon neveu, il m'a dit, mais viens, on va prier pour toi, on va faire l'onction d'huile selon Jacques. Alors, ils m'ont fait l'onction d'huile. Je vois ce pasteur arriver avec sa fiole d'huile. Un petit vieux pasteur, il était ridicule. Je me suis dit, il va m'en mettre plein mon beau costume. Je n'y ai pas cru. Et j'ai eu encore plus toute la semaine. Et le dimanche d'après, ils m'ont dit, mais tu vas revenir? Oui. J'ai redemandé pardon encore pour un péché que j'avais commis entre-temps, grave. Et on m'a fait l'onction d'huile. Mettez Jacques 5, 13, 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église, que les anciens prient pour lui en l'oignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Toute l'Église a prié pour moi. Je suis rentrée à la maison, je me suis assise sur mon canapé où j'avais l'habitude de lire la Bible, je la dévorais. Et là, j'ai été entourée d'une chaleur comme ça tout l'après-midi, d'une chaleur. J'étais guérie d'asthme et de toutes mes allergies. Ce jour-là, ma vie a été transformée. Là, la famille, c'était une bousculade. Maman qui est guérie. Mon mari m'a redemandé en mariage, après presque 10 ans de divorce. J'en ai fait une crise cardiaque, j'ai fini à l'hôpital Adlémont. C'est vrai, je supportais même plus son odeur. Je fumais, je buvais. Ah non, et j'étais bien à Neuchâtel, j'avais une belle place à la chambre de commerce. Et puis, on m'a dit, on va vous mettre dans une maison pour les cardiaques là-dedans. J'ai dit, non, mais c'est super, je connais tout le monde là-dedans. Ils m'ont dit, non, alors vous parlerez trop, il faut trouver une autre maison. Et ils m'ont mis à Bethel à Orvin. Quelle bénédiction d'être à Bethel à Orvin. Dans la même maison, il y a Libetto. Et je suis arrivée à peu près à la fin de l'année scolaire. Et j'ai demandé au directeur, Jean Blanc, si je pouvais me faire toute petite un jour dans la salle. Je vous raconte ça parce que c'est un détail, mais c'est extraordinaire. Le jour de la dernière journée d'Ibeto, c'était la journée dévotionnelle, avec un pasteur qui vient de par ici autour, Michel Renevier. Et Michel nous dit tout à coup, on fermait les yeux, franchissez le parvis céleste. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. J'étais chrétienne seulement depuis 2 ans. Franchissez le parvis céleste, 3 fois. Franchissez. Alors j'étais là, j'avais les yeux fermés. Et tout à coup, j'ai vu ceci. Je voyais comme une porte, mais grande, un arc, je ne voyais pas. Mais je dis, je ne peux pas entrer, je suis trop impure. Et j'ai entendu une voix qui m'a dit ceci. Jacqueline, mon sang a coulé à la croix pour toi. Tu es propre maintenant. Entre. J'ai franchi un portail. Je suis arrivée dans un endroit absolument merveilleux. À terre, c'était plus brillant que du verre, plus brillant que du diamant. Brillant, brillant, brillant. Les murs, c'est que des pierres précieuses. Mais surtout, ce qui est magnifique, c'est cet amour qui est là quand on entre. Cet amour qui nous enveloppe. Et je savais, je sentais, je ne savais pas, mais je ne voyais pas qu'il y avait un trône tout au fond. Et j'ai fait 3 pas en direction de ce trône. Et j'ai entendu pleurer. Je me suis retrouvée dans la salle, un jeune homme pleurait devant moi. Mais ce jour-là, je sais, j'ai compris ce jour-là que Jésus est la porte. Et qu'on ne me raconte pas des histoires de Saint-Pierre, blabla, c'est Jésus qui est la porte. Et il a dit, je suis la porte, nul n'entre au Père que par moi. Donc, oui, quand mon mari me redemandait en mariage, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors j'ouvrais toujours ma Bible à 1 Corinthiens 7, 10, 11, que la femme ne sépare pas de son mari. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ah, c'est bien, Seigneur. Et je tombais, ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Je refermais ma Bible immédiatement, je ne supportais pas de voir ça. Et puis, il a eu la patience, il a prié pendant des années pour qu'on se retrouve. Et nous nous sommes remariés après 10 ans de divorce. Et nous sommes allés habiter à basse-cour, à côté d'une de nos filles. Un jour, il m'annonce qu'il est licencié, licenciement économique. Il faisait les courses, comme il dit, il faisait les voyages de basse-cour aux Franches-Montagnes. Et puis, on prie le soir. Et en priant, j'avais les yeux fermés et je vois en tout gros D-I-M-E. Je le dis dans toutes les églises, parce que c'est important. Quand Dieu parle, vous allez voir comme c'est lumineux, c'est brillant, c'est extraordinaire quand on lui obéit, comme c'est béni surtout. Et je lui dis, mais Étienne, t'en es où dans ta dîme? Parce que moi, je travaillais plus quand on s'est remariés. Hein, j'arrangeais la maison, j'aime coudre, j'aime décorer, voilà. Puis on était bien, on était les deux, donc je ne travaillais plus, donc je ne m'occupais pas des comptes. Je lui dis, t'as donné combien dimanche dernier? Oh, pas grand-chose. Je lui dis, je sais, j'ai entendu. Il n'avait pas dû donner beaucoup, hein. Je lui dis, Étienne, tu ne peux pas faire ça. Regarde ce qui est écrit dans Malachie 3, 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. La maison du trésor, c'est notre église où on est membre. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Étienne avait une bronchite. Ça, c'était le samedi. Le dimanche matin, il ne va pas au culte, il reste au fond de son lit avec sa bronchite. Et puis, on avait un pasteur qui venait depuis le midi de la France qui nous dit, s'il y en a qui ont des problèmes de dos, avancez-vous. Ah, je me dis, bien, c'est dommage qu'il n'est pas là. Il avait depuis la naissance un bassin plus haut que l'autre de 14 mm. Et je m'avance. Et il y avait toute une file vers lui, moi je m'avance vers les deux anciens. Et je leur dis, voilà, Étienne souffre chaque année de sciatique, on doit toujours appeler une dame à Porrentruy qui fait le secret. Il a un bassin plus bas de 14 mm. Alors on prie, et puis l'ancien me dit, tu crois qu'il sera guéri? Et cette année-là, j'étais la plus vieille de la classe, j'étais élève à Libéto, donc à Orvin. Et quand on est dans une ferme, eh bien on sent bon la ferme. Quand on est à Libéto, ben on a plein de versets qui nous viennent. Et là, quand ils m'ont dit, tu crois qu'il sera guéri? J'ai dit oui. Par les meurtrissures de Jésus, à la croix, Jésus sera guéri. Étienne sera guéri. Je rentre à la maison, je dis, Étienne, on a prié pour toi. Oh, j'ai prié pour ma bronchite. Je dis, non, on n'a pas pensé prier pour ta bronchite. On a prié pour ton dos. Et tout l'après-midi, ça lui chatouillait dans le dos. Il se dit, oh, je dis encore, il y a Jacqueline. Oh, oh, oh. Le lundi, ça lui faisait comme ça. Bzzz. Le mardi matin, il va prendre sa douche. Il me dit, Jacqueline, regarde. Il commence à s'habiller. Il me dit, regarde. D'habitude, il était comme ça. Il était tordu. Hein. Et là, il était comme ça. Je dis, mais voir tes pantalons droits. Je dis, mais voir tes souliers. Il boitait de l'autre côté. Mon mari était guéri, comme le centenier, alors qu'il n'était même pas dans l'église. La foi. Mon mari était guéri, c'est extraordinaire. Et puis Dieu nous a donné une maison, c'est un long témoignage. Un jour, j'ai demandé à Dieu, qu'est-ce que c'est les écluses des cieux? Il m'a montré le ciel qui s'ouvrait et il m'a dit, sers-toi, mais c'est pour me servir. Alors c'est ce que je fais, je sers le Seigneur, c'en est fini de mon témoignage, après je parle du secret. Il y a une page blanche. Cette page blanche, c'est parce que Étienne nous a quittés cet été. On l'a hospitalisé le 6 juillet et puis on l'a enterré le 6 août. Et le matin où il est décédé, on nous téléphone depuis Bâle. Donc il a eu une maladie très rapide, il avait beaucoup d'anticorps. Il a fait une maladie très rare. Il s'est mangé les muscles en voulant se défendre contre une maladie qu'on n'a pas eu le temps de trouver. Et le jour où il décède, on me téléphone, venez, venez, il a fait une grave hémorragie. Je me dépêche, je cours vers ma fille qui habite la maison à côté. Et je dis, il faut vite aller. Elle me dit, non, non. Ce n'est pas nécessaire de courir, ils viennent de m'appeler, il ne faut pas courir. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'entends, je suis la résurrection et la vie. J'ai dit, Isabelle, ton papa est parti vers Jésus. On a regardé notre montre et on lui avait téléphoné à 9h13, il était parti à 9h10. Donc, je suis dans la paix, mon mari est bien là-haut. On s'est beaucoup aimé. On s'est beaucoup pardonné. Maintenant, je passe au secret. Qu'est-ce que le secret? Quand dit le dictionnaire? C'est la première fois que je témoigne, je crois, après le décès d'Étienne. Non, la semaine passée, c'était à Saint-Imier. Pardon. Secret, ce que l'on tient caché, qui n'est connu que peu de gens. Occulte, caché. Origine oculaire, caché. Occulté, masqué, une source de lumière. Et toutes les prières, comme je vous ai dit, sont faites à des saints, à des anges, à des archanges. Dans un secret que je faisais, je récitais le Notre Père, mais il y avait aussi une prière à une sainte. Je vais vous lire deux prières qui ont été données par des guérisseurs. Une est connue, Maurice Ray en parlait. C'est une prière donnée à un enfant, à porter toujours autour de son cou. Il ne faut pas ouvrir, ça porte malheur, avait dit la guérisseuse ou le guérisseur. C'est écrit. La maman a ouvert le sachet, c'était écrit. Satan, guéris son corps et prends son âme. Ce n'est pas du tout mes secrets à moi, mais c'était écrit ça. Une autre prière en France. Par les portes de l'enfer, avec toute la puissance de la trahison de Judas, renie ton Dieu. On reparle là de la trahison de Judas comme dans mon secret. voyez ce qu'on peut avoir comme secret. Il y a eu des conséquences sur ma famille. Malédiction grave dans la famille de mon arrière-grand-mère qui faisait la magie blanche. C'était en Alsace. La magie blanche, le secret, c'est la même chose. On invoque des saints, les saints sont morts, qui nous répond ? Il faut savoir que Satan a pris 30% des anges, et ceux qui répondent, ce ne sont en tout cas pas les saints, puisqu'ils sont morts. Ce ne sont pas les anges, on n'a pas le droit de donner d'ordre aux anges. Ce sont des mauvais esprits qui nous répondent. Conséquence sur les guérisseurs en général. Nous avons étudié dans le village d'Étienne les familles qui faisaient le secret, plusieurs familles. Plus de paix, maladie, héréditaire, suicide, assassinat, mort violente, stérilité, pauvreté sur plusieurs générations, etc. Quand j'étais veilleuse de nuit à Seigne-Légier, l'homme du village qui faisait le plus le secret, il se tendait comme un arc, il hurlait, il voyait où il allait, il voyait l'enfer. Mais je suis persuadée que 90% des gens qui font le secret, comme moi, étaient sincères, sont sincères. J'ai apporté pour le pasteur, je dois donner ça au pasteur, un journal, Shabak. On m'a demandé de le conseiller aux jeunes. Il y a une page d'une interview et, sur moi. Et, achetez-le, les jeunes, ce journal Shabak. Elle parle de ça aussi. Voilà. Conséquence donc sur les personnes soignées maintenant pendant le secret. Dans notre ignorance, on les lie à Satan. On ne se rend pas compte. On est ignorant. On est quand même sincère, je le répète. J'ai dû être déliée là, plusieurs fois. Quand Pierre Truchel a prié pour moi un jour, je suis tombée à terre et j'ai hurlé, non pas avec une voix de femme, et j'ai une petite voix du fait que j'ai été 46 ans asthmatique, non pas avec une voix d'homme. J'ai hurlé avec une voix diabolique, mais hurlé. Heureusement, la salle était vide, les gens étaient partis. Il a prié pour moi en dernier, mais les gens n'auraient pas dormi en entendant ce cri inhumain, horrible. Donc, et au moment où il a prié pour moi, je suis tombée à terre, au dos d'abord. Puis il se met à genoux, et il dit, « Toi, je te chasse au nom de Jésus, parce que j'ai touché à tellement de choses. » Et au moment, je n'ai jamais de ceinture, moi, je suis toujours comme ça, ça vient peut-être d'avoir été asthmatique. Au moment où il a prié pour moi, je me suis sentie comme ça, « Rum !» Comme si une ceinture était comme ça, et je me suis retrouvée à plat ventre. Comme si on m'avait tiré, et j'ai encore hurlé une deuxième fois. Mon mari, il a fait 3 bonds en arrière. Qu'est-ce qu'il y a, ma Jacqueline? Qu'est-ce qu'il s'est demandé? Le peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et c'est cela, on n'a pas la connaissance, selon Osée 4.6. Tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai, tu seras dépouillé de ton sacerdoce. J'oublierai aussi tes enfants. Je vois la malédiction sur mes parents. Maintenant, il y a une conséquence biblique. Vous pouvez la mettre là-haut, c'est Exode 20.15. La conséquence biblique, ce n'est pas bénin. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis... Exode 20.15, c'est pas ça? Alors je le lis, peut-être je me suis trompée. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. On en est là, nous, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Alors pourquoi j'ai arrêté de pratiquer le secret? Parce que j'ai découvert que Jésus est mort à la croix pour prendre nos maladies, et dans le secret, comme je vous l'ai dit déjà plusieurs fois ce matin, rien n'est fait au nom de Jésus. Et Jésus a dit, « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. En mon nom. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. » Et il y a ce verset qu'on peut mettre au rétro, Marc 16:17-18. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom. Non. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » Breuvage mortel. Savez-vous que quand j'ai vu que le gourou mentait à tout le monde, j'ai commencé à le regarder et il a vu que j'avais vu. C'est-à-dire il a vu dans mes yeux que j'avais découvert qu'il était un menteur. Je suis rentrée de son pays, c'était à l'autre bout du monde, hein, 13 000 kilomètres. Je me suis tordue dans mon lit toute la nuit. Dans ma famille, on ne vomit jamais. Mais le matin, j'avais des selles blanches, comme une feuille blanche. Je vais chez mon médecin, il me dit, « Madame Frézard, heureusement que vous êtes bâtie comme ça, que vous faites 1m80, vous seriez morte, vous avez eu un empoisonnement mortel, grave, très grave, mortel. » Alors voilà, si j'étais une petite femme d'1m50, je ne serais plus de ce monde. Je remercie mon père qui était alsacien, qui était si grand. Surtout une chose, et je remercie Dieu qui m'a sauvée, parce qu'il savait que le gourou a vu, ou bien surtout Satan, que je changeais de camp. J'étais dans le camp de l'ennemi, et, à fond. Et là, je suis rentrée dans le camp de Jésus-Christ. Et je dénonce. Et je n'ai pas peur de dénoncer. Et parfois, ça m'est déjà arrivé de taper sur la table. Et maintenant, je me calme un peu, parce que c'est la parole de Dieu qui convainc, ce n'est pas ma parole. Et quand je parle à des jeunes, je parle beaucoup à des jeunes. Je serai le 11 novembre à Neuchâtel pour les chrétiens étudiants de l'université. Je leur ai dit, faites un peu de réclame. Et il y aura tous les groupes de jeunes de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. Alléluia. Mais qui prennent des notes. Les jeunes, il faudrait prendre des notes. Quand j'arrive dans une salle où il y a des jeunes, je dis, prenez notes. Parce que ce n'est pas ma parole qui va convaincre quand vous parlerez du secret. C'est la parole de Dieu. Surtout une chose importante, quand Jésus guérit, il guérit définitivement. Mon asthme, je n'en ai plus. Parfois, au début, que j'allais témoigner, ça sifflait. Je disais, terminé, je suis guérie maintenant, vous arrêtez de siffler. J'ordonnais à mes poumons de se taire. Je leur ordonnais de se taire. Et puis, Étienne a été guéri définitivement. Quand Jésus guérit, on est guéri définitivement. Par contre, quand on venait chez moi pour me faire le secret, on disait, ben, je reviens dans 3 mois. Parce que dans 3 mois, c'était de nouveau là, les douleurs étaient là. Et mon mari faisait 3 à 4 fois par année des sciatiques. Quand un neveu qui se brûlait sans arrêt, il était apprenti cuisinier, il se brûlait toujours, il me téléphonait, ma reine, tu me fais le secret pour les brûlures, oui. Un jour, j'ai dit, écoute, Eric, je ne fais plus le secret. Ben, il ne s'est plus jamais brûlé depuis le jour-là. C'est vrai? Que dit Dieu sur les guérisseurs? Je n'ai pas regardé ma montre, il ne faut pas que je fasse trop lent. Hein. Ne vous tournez pas vers ceux qui évoquent les esprits, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Donc, il existe deux mondes, le monde des ténèbres, le monde des lumières. Vérité ou mensonge, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il a surtout dit, dans Jean 18, je n'ai rien dit en secret, si je suis né et si je suis venu dans ce monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. C'est ma vie maintenant, c'est mon verset maintenant. Et Jésus guérissait tous les malades à la lumière, Philippe guérissait dans la foule, ils n'ont jamais dit, viens, on va te guérir en secret. Écoutez bien ce verset, 2 Timothée 4, 3-4. Il viendra un temps, c'est exactement maintenant, hein, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs, selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. L'histoire de la couenne de l'art, c'est une fable. Il y a un seul médiateur. Je vous donne encore 2 versets. Ça, vous pouvez le noter. Pour répondre à ceux qui font le secret. Un seul médiateur. Un seul. Jésus-Christ. 1 Timothée 2, 5, 6. Il y a un seul Dieu, un seul médiateur en Dieu et les hommes, Jésus-Christ, qui s'est donné en rançon pour nous. Et le verset clé à retenir quand on nous parle du secret, des cartes anciennes, de tout cet occultisme, c'est Deutéronome 18-10, qu'on ne trouve chez toi personne qui se livre à la divination, qui tire des présages, qui recourt à des techniques occultes ou à la sorcellerie, qui jette des sorts, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou prédisent l'avenir, personne qui interroge les morts. En effet, quiconque se livre à ces pratiques est en abomination à l'Éternel. Ma famille était en abomination à l'Éternel. Il n'y a plus aucun munch. Il y a des petites filles. Il n'y a plus aucun munch. C'est fini. La famille est décimée. Et voilà, qui a autorité dans notre vie? Si on accorde notre confiance aux puissances occultes, elles vont prendre autorité dans notre vie, nos pensées. Moi, je ne pensais plus qu'à ça. Nos choix, nos actions, et c'est la mort. Quand Jésus devient notre Seigneur, il dirige nos pensées, nos choix, nos actions, et c'est la vie éternelle. Il faut donc obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et conséquence de l'obéissance à Dieu, je vous en ai parlé, ma guérison d'asthme, mais pour chacun de nous, selon Ésaïe 48, 17, 19, pour ceux qui notent. Je ne vais pas tout lire, mais ton bien, si tu obéis, si tu es attentif à mes commandements, ton bien serait comme un fleuve, ton bonheur comme les flots de la mort. Et si tu obéis, Deutéronome 28, moi j'aime ce Deutéronome 28. On a prié pendant 5 ans, nos 5 premières années avec mon mari. Merci Seigneur, parce que le fruit de nos entrailles est béni. Et nos filles ont dit maintenant, arrêtez, on a eu 5 petits-enfants en 5 ans, donc maintenant, arrêtez de prier, on ne veut plus d'enfants, on en a assez. Voilà. Mais Dieu a entendu nos prières, le fruit de nos entrailles est béni, il nous a donné plein d'enfants, et Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Important pour les jeunes, Notre relation avec Dieu est très importante. Notre connexion avec Dieu. Notre connexion. J'ai entendu un message de Patrick Fontaine qui disait ceci, je l'ai entendu la semaine passée. Ça m'a tellement marqué que j'en veux partager. On voit cette main de Dieu et cette main de l'homme sur une peinture. Hein. De la main de Dieu coule la grâce, de la main de l'homme, avec la foi, on touche et Dieu verse. Et c'est cela, il verse en abondance. Et il n'y a pas seulement la main qui est connectée, mais il y a l'oreille. Je racontais avant à un jeune dans le train qu'un soir, on priait avec mon mari. Et puis, il était 9h, il me dit, je vais me coucher. Je dis, mais je vais encore prier. Et j'entends, prie pour Pierre. Et je vois le visage d'un jeune homme dans l'église. Et j'entends le mot suicide. Je dis, Étienne, viens, il faut te relever, on va prier. Il y a un jeune homme de l'église qui veut se suicider. On a reprié par la parole de Dieu. Tu es la résurrection et la vie. Empêche ce jeune homme de suicider. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qu'il fait. Mais toi, tu sais, si tu m'as parlé, je crois. Alors empêche-le. Et on a prié, prié. On est allé se reposer en paix. Pendant quelques semaines, je ne l'ai plus vu dans l'église. Et un jour, un mardi soir, il m'attendait à la sortie, après la prière. Il me prend dans ses bras, un gros garçon comme ça. Il me dit, Jacqueline, vous avez prié pour moi un soir. Je dis, oui. Je suis un ancien toxicomane. J'étais à la prison, ici, à Porrentruy. Et un soir, j'avais aligné tous mes médicaments. Je voulais me suicider. Et tout à coup, dans ma chambre, dans un coin de la chambre, j'ai vu votre visage. Et j'ai vu que sur terre, quelqu'un m'aimait. Et je ne me suis pas suicidée. Et un jour, je l'ai rencontré à Libeto. Il a fait Libeto. Il a rencontré une femme à Libeto. Ils sont pasteurs à Genève. Ils s'occupent des toxicomanes. Être connecté. Dieu nous parle. Toute personne qui a pratiqué le secret, donc ça, c'est dans les conseils que vous pourrez donner, ou toute autre forme d'occultisme, ou à qui on a imposé les mains en faisant le secret, doit impérativement demander pardon à Dieu pour ses pratiques, qui sont des pratiques occultes, cachées, occultes. Proclamer que Jésus est le seul Seigneur dans sa vie, demander une prière de délivrance, et puis arrêter tout cela, cesser ces pratiques occultes. Que faire maintenant? Bien, 2 Corinthiens 2, 6 nous le dit clairement. Nous rejetons les choses douteuses qui se font en secret. Nous n'altérons pas la parole de Dieu. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Amen. Et aujourd'hui, je peux vous dire, selon 2 Pierre 3, 17, 18, vous donc bien-aimés qui êtes avertis, tenez-vous sur vos gardes, croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et puis, après la Sainte Cène, on pourra prier pour des gens qui ont eu un problème peut-être, qui ont été prisonniers de ceci. Moi, j'ai fait un jour une liste, le Seigneur me montrait de quoi j'étais prisonnière dans ma vie. J'étais prisonnière d'asthme depuis l'âge d'une année. Les voisines, elles disaient, elle ne vivra pas ta Jacqueline. J'étais prisonnière d'un corps trop grand. Les garçons dans les Vosges sont petits, me disaient, il fait chaud là, mademoiselle, j'en ai fait des complexes terribles. J'étais prisonnière de ma confiance en des cartes anciennes, qui toutes me disaient la même chose. Vous divorcerez, mais j'étais prisonnière. J'y retournais sans arrêt. J'étais prisonnière d'un gourou hindou. J'étais prisonnière de l'occultisme. J'étais prisonnière de mon ignorance. J'ignorais la parole de Dieu. C'est comme être dans une prison. Parce que Jésus nous dit, il nous a amené la liberté. J'étais prisonnière de mes rancunes, de mes dons pardon à mon père, par exemple. J'étais prisonnière aussi de la boulimie à un moment. Je mangeais mon chagrin. Et puis de mes pensées noires, destructrices. Donc, on est tous quelque part ou parfois prisonniers. Donc après, et Jésus m'a libéré. Seul Jésus libère, sauve, guérit. Et en général, après mon témoignage, je fais une prière. Alors, je vais me laisser guider. Ce n'est pas une prière où on donne son cœur à Jésus. Vous êtes chrétien. Mais je vais remercier le Seigneur. Seigneur notre Dieu, merci pour cette assemblée qui est toi, qui te connaît. Merci Seigneur, parce que tu veux qu'on soit tous des serviteurs. Nous voulons tous te servir et proclamer le mensonge. Satan est le prince du mensonge, nous ne le voulons pas, ni dans nos familles, ni dans nos collègues. Alors je te demande Seigneur de nous aider à être la lumière du monde partout. Je bénis cette assemblée, je la bénis dans le nom de Jésus. Accorde-leur vraiment d'être des messagers de ta bonne nouvelle. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Et ce matin, quand je priais pour vous tous, le Seigneur me montrait qu'il y a une personne dans la salle qui enseigne. Et je ne connais pas, je ne sais pas qui est la personne. Mais le Seigneur me disait qu'à cause de Jésus, cette personne, elle est parfois chicanée, embêtée, tourmentée par ses collègues. Et le Seigneur lui dit à cette personne, « Mon esprit qui a ressuscité Christ est en toi. tu es vainqueur. Ne les crains pas, tu es vainqueur. Il y a une personne dans la salle qui a des céphalées, des violents maux de tête. Ça la réveille la nuit. Elle souffre beaucoup. On pourra prier pour cette personne à la fin. Je te bénis, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je vous bénis tous. Amen.